Bonjour à tous. Vous savez, je garde un magnifique souvenir de notre mariage à Pierre-Yves et à moi il y a 14 ans. Mais souvent, quand on en a reparlé avec d'autres personnes, le souvenir qu'ils en avaient, c'est « qu'est-ce qu'il faisait chaud ce jour-là ?» C'est vrai que c'était un 9 août, il faisait très chaud, un peu comme ce matin, c'était l'après-midi. Mais curieusement, ce n'est pas du tout le souvenir que j'en garde. Et j'espère que ce matin, dans la présence du Seigneur, ce que nous retenons, ce n'est pas cette chaleur un peu suffocante, mais c'est vraiment la joie de retrouver le Seigneur et d'être à l'écoute de sa parole. Cet été, avec les enfants, nous sommes allés visiter le Futuroscope pour la première fois. On est allés le découvrir. Alors, on est arrivé à 10h le matin, on est resté jusqu'à 21h et on a fait un maximum de choses, mais même en une journée, on n'avait pas pu tout faire. Et le soir, les enfants ont chanté, ils disaient « Oh, on retourne demain, on retourne demain, on retourne demain. » On n'est pas retourné le lendemain, on a fait autre chose, mais en disant « On reviendra et on pourra refaire des choses nouvelles, refaire des choses qu'on n'a pas faites, peut-être même découvrir des nouvelles choses qui auront été inventées. » Et ça me fait un peu penser, quand on revisite des textes de la Bible, vous savez qu'on a l'impression de bien connaître. Mais il y a toujours des choses qu'on n'a pas eu le temps de découvrir. Des choses qu'on n'a pas eu le temps de voir. Et ça fait du bien de revenir sur certains textes et de s'émerveiller. Et malgré de nombreuses années à lire ma Bible, à creuser, à réfléchir, il y a encore des textes, et notamment un cet été, où j'ai l'impression de redécouvrir. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, en revenant aux origines de l'humanité, dans le chapitre 4 de la Genèse. Sur cette histoire tragique de Caïn et de Abel. Genèse chapitre 4, et nous lirons les versets 1 à 16. Je lis dans la version Nouvelle Seconde 21. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai donné la vie à un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. » Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs !» Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit. » Chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient, ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. Première fratrie, premier meurtre. Quelle tragédie. Mais en même temps, la tragédie est double. une double tragédie. Parce que ce qui m'a frappé dans ce texte, vous savez, si vous avez regardé votre petite feuille jaune, peut-être vous avez été surpris par le titre, peut-être pas. Je l'ai intitulé « Caïn, le bien-aimé ». Et peut-être certains se sont dit « Oh, il doit y avoir une faute, c'est plutôt Caïn le mal-aimé, Caïn le disgracié, Caïn le rejeté ». Et pourtant, quand on regarde ce texte, qu'on le lit attentivement, ce qui apparaît au fil de ce texte, c'est la bonté et l'amour de Dieu envers Caïn, malgré tout, du début à la fin. Un magnifique témoignage du cœur de Dieu dès l'origine. Dieu n'a pas changé. Et dès l'origine, Dieu va à la rencontre de sa créature déchue. Dès l'origine, Dieu lui manifeste son amour. Dieu lui redit sa valeur. Dieu l'exhorte et l'attire à lui. Une double tragédie donc, parce que non seulement il y a effectivement un meurtre terrible, mais en plus, cet amour, cette grâce de Dieu est rejetée par Caïn. Et ce matin, je vous propose de nous pencher sur ce texte, non seulement pour y découvrir justement un peu du cœur de Dieu, mais également un avertissement pour nous, mais aussi une exhortation. Alors je disais une tragédie, parce que voyez comment Dieu se préoccupe de Caïn. Alors c'est vrai, au départ, il y a deux offrandes, l'une est acceptée par Dieu et pas l'autre. Et ça nous met mal à l'aise au départ, parce qu'il n'y a pas d'explication, parce qu'on ne sait pas pourquoi Caïn et son offrande sont rejetées. Et manifestement, Caïn ne sait pas non plus, ou en tout cas, n'en est pas conscient. Mais après cela, donc on voit Caïn qui est irrité, est jaloux, et arbore un air sombre, boude, il est en colère. Mais tout au long de ce texte, Dieu n'a de cesse de venir à sa rencontre, de l'amener à la repentance. Dieu est animé et motivé par le désir de faire grandir Caïn et de le voir emprunter une voie juste, de le voir éviter la ruine. Dieu fait preuve de bienveillance et de patience avec Caïn. Dieu le laisse libre tout en lui montrant la voie. Par exemple, Dieu prend l'initiative de la relation. On le voit au verset 6, mais aussi au verset 9. Une fois que Caïn est boude dans son coin, c'est Dieu qui vient vers lui. C'est Dieu qui vient vers lui. Quand Caïn a tué Abel, c'est encore Dieu qui vient vers Caïn. Il lui donne, deuxième chose, l'occasion de dire sa colère, son sentiment d'injustice. C'est pourquoi. On voit, il lui dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi abordes-tu un an sombre? Caïn aurait pu, à ce moment-là, y pencher son cœur, dire, Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me rejettes? C'est pas juste. Dieu entend nos pourquoi. Et bien des hommes dans la Bible ont crié leur pourquoi à Dieu. Job le premier, victime d'une situation qui paraissait particulièrement injuste et douloureuse. Pourquoi Seigneur? Voilà ce que je ressens, je suis en colère, je suis irritée, je ne comprends pas. Je doute. Mais Caïn se tait, reste dans sa bouderie, dans sa colère. Au verset 7, Dieu l'encourage ensuite. Il encourage, il lui dit, mais certainement si tu agis bien, tu te relèveras. Il y a de l'espoir. Hé, ne reste pas là. Puis, il l'avertit. Au verset 7, attention, si en revanche tu agis mal, attention, le péché est couché à ta porte, ses désirs se portent vers toi. Mais même là, il le réencourage. Mais même si tu agis mal, tout n'est pas perdu, toi tu peux dominer sur lui. Également, jusqu'au bout, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé avant, jusqu'au bout, il lui affirme sa valeur à ses yeux. Il y a quelque chose d'assez intriguant à la fin de ce texte. Vous savez, avec cette marque que Dieu met sur le front de Caïn, Et puis, Caïn, quand Dieu lui annonce que il est maudit, les conséquences de son acte, quand Dieu lui annonce les conséquences de son acte et de son endurcissement, sa réaction, c'est dire « T'es trop dur avec moi. T'es trop dur avec moi. » Et puis, en plus, dire « Mais quelqu'un pourrait me trouver et me tuer. » Et alors, Dieu pourrait lui dire « Mais c'est que justice. T'as quand même tué un homme, ton frère. » Non, Dieu dit pas ça. Dieu lui dit « Si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Mais qui s'occupe de venger Abel ?« Si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Alors ça peut paraître un peu choquant, dire qu'on est prêt à tuer 7 hommes. Mais en fait, c'est la suite du texte qui nous éclaire. Dieu met une marque sur Caïn pour que ceux qui le trouvent ne le tuent pas. Le but, c'est pas de tuer 7 hommes. Le but, c'est vraiment de dissuader quiconque de porter la main sur Caïn. Caïn s'est endurci. Caïn a rejeté Dieu. Caïn est en train de dire en plus, il a le culot de dire « Mais t'es trop dur avec moi. » Et Dieu lui dit « Ta vie a de la valeur à mes yeux. » Ta vie a de la valeur à mes yeux. Et je vais faire en sorte de la préserver. Et il met cette marque mystérieuse. On se demande qu'est-ce qui peut dissuader. Mais dans le but que personne ne porte la main sur Caïn. Jusqu'au bout. Dieu réaffirme à Caïn qu'il a de la valeur. Alors que certainement, tout au début, son sentiment, ça a été l'inverse. Lui, il compte, moi, je compte pas. Si, Caïn, tu comptes pour Dieu. Quel contraste entre la bonté, la patience, la pédagogie persévérante de Dieu dans ce texte, et l'attitude rebelle, fermée et égocentrique de Caïn. Et cette conclusion terrible du texte, Caïn s'éloigna de l'Éternel. Dieu vient lui dire, tu as de la valeur à mes yeux, je vais faire en sorte que personne ne te touche, ne te fasse du mal. Caïn est rassuré, mais Caïn s'éloigna de l'Éternel. Quelle tragédie, vous ne trouvez pas? Et cet enseignement est valable pour tout le reste de l'humanité. Depuis les origines, Dieu affirme et réaffirme qu'il désire ardemment la restauration de l'homme pécheur. Depuis le commencement, Dieu est animé par son amour et sa bonté envers l'être humain, dont il est le Créateur. Ézéchiel 33:11 nous dit « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Au contraire, je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël ?» Et tout au long de l'Ancien Testament comme du Nouveau, Dieu appelle à la repentance, au changement, à revenir à lui. Dieu a une patience envers le peuple d'Israël. Il a effectivement souvent menacé de détruire le peuple, mais quand finalement le peuple finit par effectivement être déporté, il y a eu des centaines d'années de rébellion. Dieu est lent à la colère. Parce qu'en fait, ce qu'il désire dans les avertissements, c'est pas de punir. C'est d'amener à un changement. Jésus qui s'est lamenté sur Jérusalem, j'aime beaucoup cette attitude de Jésus en Matthieu 23:37, qui dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Et on voit Jésus qui pleure sur cette ville, en se disant, mais combien de fois j'ai voulu t'attirer à moi et tu ne l'as pas voulu. Cette attitude de Dieu envers Caïn, c'est la même envers toutes ses créatures. Avant même la fondation du monde, nous dit Éphésiens 3, Paul nous dit que Dieu avait prévu de toute façon, avant la fondation du monde, un plan de salut en Jésus-Christ. Il avait déjà prévu que si ça se passait mal, et il savait que ça se passerait mal, il puisse manifester son amour, sa bonté et restaurer l'homme pécheur. Cela nous concerne tous. Puisqu'avant de devenir des enfants de Dieu, nous étions des pécheurs rebelles. On lit en Tite 3:3, « Car il fut un temps où nous-mêmes nous vivions en insensés dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. » Verset 4, « Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. » Quand Dieu a révélé son amour et sa bonté pour les hommes, il nous a sauvés. Le moyen que Dieu a de nous attirer à lui, c'est ce qu'il a essayé de faire avec Caïn, c'est de nous révéler sa bonté et son amour. De pécheurs rebelles, il fait de nous des enfants justifiés par la foi et non par nos propres mérites. Et cette foi qui nous sauve, elle découle de la prise de conscience, justement, de cette bonté et de cet amour de Dieu. Qui nous conduit à la repentance, à la conversion, conversion dans le sens littéral du terme, celle qu'on utilise quand on, avec les skis, vous savez, vous êtes dans le sens de la pente et vous faites une conversion pour vous retrouver dans l'autre sens de la pente. La conversion, c'est un changement de direction. Et Dieu, c'est ce qu'il dit à Caïn. Attention, t'es dans la mauvaise direction, convertis-toi, change de direction, sinon tu vas partir dans le mauvais sens de la pente. Et cette histoire de Caïn, elle est pour nous pleine d'enseignements, non seulement sur la bonté inlassable de Dieu, mais aussi un avertissement pour nous dans les situations qui nous bousculent. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est mon deuxième point sur vos feuilles. C'est que Caïn, il a été bousculé par cette situation. Et cette situation s'est révélée révélatrice, justement. C'est avéré révélatrice. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, certains l'ont peut-être déjà entendue, je l'ai retenue d'un de mes professeurs à l'Institut biblique de Genève. « Quand on renverse un bocal, c'est ce qui était dedans qui en sort. » Quand on renverse un bocal, c'est ce qui était dedans qui en sort. Ça veut dire que quand une situation vous bouscule, notre réaction derrière, notre état, derrière, état d'esprit, état d'être, c'est pas provoqué par la situation. C'est que la situation a fait sortir des choses qui étaient déjà là. C'est révélateur de notre état d'esprit, de notre disposition au préalable. La manière dont on réagit face à une situation. La preuve, c'est que deux personnes différentes peuvent réagir de façon très différente à exactement la même situation. Ça prouve que c'est pas la situation qui détermine la manière dont on va réagir, mais ce qu'il y avait déjà dans notre cœur avant. Et ça, c'est une première leçon. Quand une situation nous bouscule, on peut toujours se demander, qu'est-ce que cela m'apprend? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre aussi? Et parfois, j'ai eu cette impression, dans certaines situations, le bocal est renversé, et de regarder un petit peu tout ce qui est sorti, et de se dire, oh là là, on va faire le tri. Le but, c'est pas juste de remettre dans le bocal, de fermer et d'attendre la prochaine fois. Donc, Caïn, il a été bousculé dans cette situation. Il s'y attendait peut-être pas. Deux frères qui agissent apparemment exactement de la même façon. Je me suis demandé comment ils avaient eu l'idée d'offrir ces sacrifices. Peut-être que c'est leurs parents qui leur ont conseillé. Peut-être qu'un a dit « qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire plaisir à Dieu ?» Je ne sais pas, mais manifestement, ils avaient l'idée en tout cas que c'était quelque chose qui pouvait faire plaisir à Dieu. Et en plus, c'est Caïn qui est cité en premier, parce que parfois on dit il a voulu faire comme son frère. Mais il est cité en premier, au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. C'est peut-être lui-même qui a donné l'idée à son frère, ça la Bible ne nous le dit pas. Et de son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau. Deux offrandes. Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu accepte celle d'Abel et rejette celle de Caïn. Et pourtant, le texte en même temps, par la suite, montre qu'il n'a pas rejeté Caïn. puisqu'il n'a de cesse de revenir vers lui, de l'amener sur le chemin de la repentance, de lui prouver qu'il a de la valeur à ses yeux. Donc ce n'est pas un rejet de Caïn. Si c'était un rejet de Caïn, il s'occupait d'Abel et il laissait Caïn à son sort. Non, Dieu se préoccupe de Caïn. Et dans cette situation qui bouscule Caïn, Dieu a quelque chose à lui apprendre. Dieu a quelque chose à lui apprendre. Caïn a la possibilité d'apprendre et de grandir, mais il choisit de s'endurcir, d'écouter sa colère et d'emprunter la voie du mal. Et cette situation révèle trois choses de Caïn. Peut-être d'autres, hein, moi j'en ai relevé trois. Ce sera pour la prochaine visite que vous en trouverez d'autres. Une mauvaise motivation. Une mauvaise conception de Dieu. Et une mauvaise disposition de cœur. Caïn a au départ une mauvaise motivation, même dans son geste d'offrande. Alors ça, c'est Hébreux 11, 4 qui nous le suggère. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 11, verset 4, il est dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, la foi, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle, la foi, qu'il parle encore, quoique mort. » Hébreux 11, 4 nous dit qu'Abel était motivé dans son offrande par la foi en Dieu, la confiance en Dieu, et que c'est par la foi, avec confiance, qu'il s'est approché de Dieu. Et quand on lit le chapitre du livre des Hébreux, on se rend compte que cette foi, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, c'est cette foi qui a conscience de son indignité, qui a conscience qu'en réalité, par nos propres mérites, on ne sera jamais suffisamment à la hauteur, suffisamment parfait pour plaire à Dieu, mais qui a la foi que malgré tout, la grâce et la bonté de Dieu peuvent s'opérer envers lui. Et c'est cette disposition de cœur, nous dit Hébreu, qui rend le sacrifice d'Abel plus excellent que celui de Caïn. Alors, j'ai entendu beaucoup d'explications, il y en a qui ont dit, mais c'est parce qu'il fallait offrir un sacrifice d'animal, parce que c'était un agneau, et que lui, il a offert des fruits et des légumes. Mais par la suite, au peuple d'Israël, Dieu demande aussi d'offrir des prémices de leur moisson. Ça fait partie des offrandes agréées par Dieu. D'autres ont dit aussi, mais Abel, il avait choisi le meilleur de son troupeau et Caïn, pas forcément. Parce que dans Hébreux, il est dit plus excellent. Mais dans le verset que je viens de vous lire, ce qui rend plus excellent, c'est pas la qualité de l'offrande, c'est la motivation, c'est la foi. C'est ça qui fait la différence. Donc la différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel, elle réside pas dans l'offrande. Elle réside dans la motivation du cœur. Alors, ça ne nous dit pas quelle était la motivation de Caïn. Est-ce que c'était gagner l'approbation de Dieu grâce à son travail? Est-ce que c'était par fierté de son travail? Est-ce que c'était pour faire plaisir à ses parents? Est-ce qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'avait pas la foi, ça ne dit pas motivé par la foi et la confiance en Dieu quand il s'est approché de Dieu. Et c'est pour cela que son offrande n'a pas été acceptée. Une mauvaise motivation qui disqualifie ses œuvres. Parce que l'œuvre en elle-même, une offrande, elle est bonne. Mais quand la motivation n'est pas bonne, curieusement, cela peut disqualifier même une œuvre bonne. Parce que Dieu, ce qui lui importe, c'est notre cœur. C'est pas ce qu'on offre ou ce qu'on donne, ou ce qu'on fait. Et les œuvres de Caïn sont même qualifiées de mauvaises par Jean dans son épître. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est 1 Jean 3,12, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. La motivation était mauvaise. Également une mauvaise conception de Dieu. Parce que Caïn, il voit le rejet de son offrande comme une offense et l'acceptation de l'offrande de son frère comme une injustice. Et s'il voit cela comme ça, c'est peut-être parce qu'il pensait mériter l'approbation de Dieu, en tout cas au moins autant que son frère. Et de dire, après tout, mon frère n'est pas meilleur que moi et je ne suis pas moins bon que lui, alors pourquoi lui et pas moi? Mais ce n'est pas une question d'être meilleur, moins bon. C'est une question simplement de s'approcher avec foi de Dieu. Il n'a pas compris que nos mérites ne nous permettront jamais d'être à la hauteur de Dieu. Et qu'il faut s'approcher de Dieu par la foi, et que seule la grâce de Dieu peut nous rendre acceptables devant lui. Alors, face à ça, il aurait pu choisir de remettre en question sa conception de la justice divine, et apprendre ainsi à mieux connaître et comprendre Dieu, se dire « là, je ne comprends pas, Seigneur. Mais si je ne comprends pas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe. C'est peut-être que au départ, je n'avais pas compris comment tu étais censé réagir. Peut-être que je ne te connais pas assez bien. » Mais plutôt que de remettre en cause sa conception des choses, il a choisi de remettre en cause Dieu et de le rejeter. Parce que son cœur était mal disposé. Et nous aussi, parfois, est-ce qu'on n'a pas tendance à, quand les choses tournent mal ou quand les choses nous paraissent injustes, souvent dans les situations injustes, à remettre en cause l'autre? C'est de sa faute? Ou à remettre en cause Dieu? Tu n'es pas juste. Dieu n'est pas juste. Et comme Dieu n'est pas juste, alors je ne me préoccupe pas de toi. C'est souvent l'attitude dans ce monde. Si Dieu était juste, on ne verrait pas ce qu'on voit dans ce monde. Donc c'est que Dieu n'est pas juste. Donc je rejette Dieu. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire au contraire, plutôt que de remettre en cause Dieu, de dire « mais peut-être que c'est moi qui ai une mauvaise conception de ce que Dieu devrait faire ». Le cœur de Caïn était aussi mal disposé. Et cette situation éprouve les cœurs et les dispositions de Caïn. Et Dieu attire l'attention dessus. Il lui dit « certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, attention, le péché se couche à ta porte. » Et ses désirs se portent vers toi. Autrement dit, il lui dit, si tu es disposé au bien, tu te relèveras et tu t'en sortiras grandi. Mais si tu es disposé au mal, attention, tu es alors à la merci du péché. Mais même là, il est encore temps de changer de direction. Si tu es disposé au bien, tu te relèveras. Mais le cœur de Caïn était disposé au mal. Pas disposé à écouter. Pas disposé à être instruit. On sent aucun intérêt pour Caïn d'essayer de comprendre ou d'apprendre. Aucune réaction à la pédagogie de Dieu. Pas disposé à reconnaître ses fautes. Il est dans le déni. Et même après avoir tué Abel, il a quand même le culot de dire à Dieu, je ne sais pas où il est, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Alors, quand on parlait de mauvaise conception de Dieu, c'est aussi croire qu'on peut tromper Dieu, qu'on peut croire que Dieu n'est pas au courant, que Dieu ne voit pas tout. Pas disposé à reconnaître ses fautes, le déni mais aussi l'apitoiement sur lui-même. Parce que quand la sentence tombe, ce qui le préoccupe, c'est pas l'horreur de ce qu'il a fait, c'est pas juste, c'est trop dur ce que tu... Ta punition est trop lourde. C'est ça qu'il dit. Cette peine est trop grande. Pas disposé à écouter, pas disposé à reconnaître ses fautes et pas disposé à obéir. Ça en découle. Il estime qu'il est le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour lui et qu'il n'a plus rien à faire avec Dieu. Caïn avait le choix du chemin qu'il allait emprunter et il a pris la voie du mal. Voici, je mets devant toi le bien et la vie. La mort et le mal, choisis le bien afin que tu vives, dit Dieu en Deutéronome. Il a choisi la voie de la ruine. Alors pour nous, évidemment, c'est un exemple à ne pas suivre. Point d'exclamation. Mais ce serait négatif de rester là-dessus. Je pense qu'il y a un avertissement, mais il y a aussi une exhortation magnifique. Quelle est notre réponse à la grâce de Dieu? Quelle est notre réaction quand la vie nous bouscule? Quand une situation nous semble injuste? Quand on a l'impression que Dieu a ses chouchous? Entre guillemets, si Abel était le chouchou de Dieu, j'aimerais pas avoir son sort. Quelle est notre réaction quand la vie nous bouscule?
quand notre bocal est renversé, qu'est-ce qui sort ?
Un avertissement comme celui que Dieu a donné à Caïn, dont on peut trouver l'écho en Romains 2, versets 4 et 5. Je trouvais que c'était tout à fait adapté à cette situation-là. Méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer ? Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu ? Sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer. Ça s'adresse à nous. Ça s'est adressé à Caïn, qui a méprisé ces trésors de bonté, de patience, de générosité déployés par Dieu envers lui. Et par son entêtement, il s'est préparé un châtiment plus grand encore que celui qu'il a eu sur la terre, qui était que les conséquences de son acte. Mais une exhortation, Ésaïe 30, 18, « L'Éternel attend le moment de vous faire grâce. Il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui se confient en lui. » Oui, nous pouvons répondre favorablement à la grâce de Dieu. Oui, nous pouvons accueillir la bonté de Dieu. Oui, par la foi, nous pouvons être réconciliés. Et l'Esprit de Dieu peut nous guider, nous expliquer, nous éclairer. Faire grandir en nous la confiance en la bonté et la justice de Dieu, même dans les situations qui nous paraissent injustes. Et quel contraste avec Job ! Parce que Caïn, on sait, en tout cas, qu'apparemment sa motivation était mauvaise quand il a offert l'offrande et que c'est une des raisons pour laquelle son offrande a été rejetée. Mais Job, il a vécu un tas d'épreuves. Pour quelle raison ? Parce qu'il était juste. Parce qu'il était juste. On voit dans le livre de Job, dans ce premier chapitre assez surprenant, cet enjeu entre Satan et Job, et entre Satan et Dieu. Et Job, il a dit c'est pourquoi Dieu. Mais il a en même temps redit sa confiance. J'ai confiance en Dieu et je ne comprends rien. Je suis plein de pourquoi, mais j'ai confiance en Dieu. Et Dieu, à la fin, ne lui a pas expliqué. Ce que nous savons, on en sait plus que Job finalement sur l'enjeu de ce qui s'est passé. Mais Job a renouvelé sa confiance envers Dieu. A dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et il a été restauré. Il a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. Nous avons un Dieu d'amour qui désire ardemment faire grâce et restaurer l'être humain. Et cela depuis les origines de l'humanité. Il se préoccupe de nous. Et cherche sans cesse à nous attirer à lui. Même parfois, au travers de situations douloureuses, il veut nous faire grandir. Et ces situations peuvent s'avérer révélatrices de l'état de notre vie spirituelle. Sachons nous laisser instruire. Sachons nous laisser instruire. Et en conclusion, j'aimerais vous laisser trois pistes. Trois questions. Quand la vie nous bouscule, quand une situation nous semble injuste, quand les choses... Ça n'empêche pas de se poser ces questions quand tout va bien aussi. Mais c'est parfois tellement révélateur, ces moments qui nous bousculent. Premièrement, quelle est ma motivation dans ma relation avec Dieu ? Est-ce que c'est d'être béni matériellement ou d'avoir une relation toujours plus intime avec mon Dieu ? Si c'est d'être béni matériellement, quand tout à coup je vais me retrouver dans une insécurité matérielle, que je vais perdre des choses, je vais paniquer. Je vais en vouloir à Dieu. Je vais mettre Dieu en doute. Si mon désir, ma motivation, c'est d'être de plus en plus intime avec Dieu, de mieux connaître Dieu, c'est l'occasion rêvée des situations d'insécurité pour découvrir la fidélité de Dieu et la puissance de Dieu. Est-ce que ma motivation, c'est de m'assurer du confort ? Surtout, laisse-moi dormir tranquillement, dit une chanson de Pierre Lachat. Mais réveille ton église. Est-ce que c'est une situation de confort ? Ou est-ce que c'est grandir en maturité ? Mais on grandit rarement, sans se faire un peu mal. Vous savez, l'enfant, il apprend à marcher. S'il ne veut pas tomber,
pas se faire mal, il n'apprendra pas à marcher.
Est-ce que c'est de gagner l'approbation de Dieu par mes propres mérites, ou est-ce que c'est me reposer avec joie et confiance sur le salut acquis à la croix en Jésus-Christ? Est-ce que je me démène pour prouver à Dieu qu'il a eu raison de me sauver? J'ai rien à prouver à Dieu. Dieu ne se fait pas d'illusions sur nous, de toute façon. Et puis on n'a rien à prouver. Tout nous est donné avant. Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu prouve son amour envers nous en mourant sur la croix. Nous étions ses ennemis encore. Nous n'avons rien à prouver. Deuxième question. Qu'est-ce que mes réactions dans les difficultés me révèlent sur ma conception de Dieu ? Seigneur, tu ne peux pas agir comme cela. Même Pierre, ça lui est arrivé, vous vous souvenez ? Avant la mort de Jésus, Jésus allait annoncer qu'il allait être tué et Pierre a dit « Ah non, ça ne t'arrivera pas !» Et qu'est-ce qu'a répondu Jésus ? « Arrière de moi, Satan. Waouh ! Tes paroles sont celles du diable, ne viennent pas de Dieu. » Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire ta conception de ce qui doit, ce que je dois faire ou ne pas faire, elle ne vient pas de Dieu. Et quand on a cette réaction de dire « Ah non Seigneur, tu ne peux pas agir comme ça, ce n'est pas possible. » Aïe ! Soit je me dis « Effectivement, Dieu est décevant. » Soit je me dis « Ah, j'ai peut-être quelque chose à apprendre, il y a peut-être des choses à apprendre de la manière dont Dieu agit, j'ai peut-être une erreur dans ma conception de Dieu, quelque chose à modifier. » Et les amis de Job ont été condamnés par Dieu parce que justement ils ont essayé d'expliquer la situation de Job à partir d'une conception erronée de la justice de Dieu. Si c'est ça qui t'arrive, c'est parce que t'es pécheur. Mais c'était pas ça. Ils n'avaient pas compris comment Dieu fonctionnait. Et Dieu les a condamnés sévèrement. Pourquoi ? Parce que parfois, vous savez, notre fausse conception de Dieu peut faire du mal aux autres. Si t'arrive ça, c'est parce que tu pries pas assez. Fais ceci et tu verras, ça ira mieux. Ah oui, si ça va pas mieux. On a parfois une fausse idée de la bénédiction de Dieu en réponse à notre fidélité. Qu'est-ce que mes réactions à la difficulté me révèlent sur ma conception de Dieu ? Est-ce que je suis prêt à remettre en cause ma compréhension du plan de Dieu plutôt que de remettre en cause Dieu lui-même ? Est-ce que j'ai une pleine et entière confiance dans la bonté et la bienveillance de Dieu à mon égard, dans toutes ses actions ? Et c'est cette confiance qui me permettra de ne pas remettre en cause Dieu, mais plutôt peut-être ma compréhension de la situation. Troisième et dernière question, quelles sont les dispositions de mon cœur ? Est-ce que je suis prêt, et ça c'est avant même que la situation se détériore, j'allais dire, ou que la vie nous bouscule, je pense que cette question est importante à se poser. Parce que c'est cette disposition-là qui nous rendra capables ou pas, justement, de nous relever. Comme Dieu l'a promis à Caïn, tu te relèveras. Sommes-nous prêts à être repris et à nous laisser instruire ? Sommes-nous prêts à entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire, même si c'est inconfortable ? Comme Samuel, en 1 Samuel 3:10, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, quoi que tu aies à me dire. » Sommes-nous prêts à reconnaître nos torts ? Sommes-nous prêts à ce que Dieu nous montre la poutre qui est dans notre œil avant de juger la paille qui est dans celle du prochain ? Sommes-nous disposés à obéir, quoi que Dieu nous ait montré à changer dans nos vies ? Avons-nous suffisamment confiance en la justice, la bonté, la bienveillance de Dieu pour le suivre jusqu'au bout, quel que soit le chemin qu'il nous montrera ? Quelle est la disposition de mon cœur ? Moi, je prie que la disposition de mon cœur soit celle du psalmiste David, du roi David, dans ce psaume 139, versets 23 et 24, quand il affirme « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Car j'ai l'assurance que seule la voie de Dieu mène à la vie. » Amen.